Vous écoutez Média, merci à vous de votre fidélité. On parle aujourd'hui et on fait le lien surtout entre le Covid-19 et les risques de développer une myocardite, cette inflammation du muscle cardiaque souvent causée par une infection. Alors pour en parler et pour essayer d'y voir plus clair, avec nous, professeur Ahmed Bennis, vous êtes professeur en cardiologie. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci beaucoup une nouvelle fois d'être présent et d'être fidèle à ce rendez-vous sur Média.
Avec plaisir. Merci pour votre invitation.
D'abord, la myocardite, parlons-en. La myocardite, c'est quoi ?
Alors, myocardite, myocarde, ça veut dire muscle cardiaque.
Oui.
Et it, c'est inflammation. Donc, c'est l'inflammation du cœur. Et dans le cadre de l'épidémie du Covid, nous avons des cas de myocardite, d'inflammation directe du cœur. Et cette inflammation directe, comment elle va se faire ? Parce que le virus va, à travers les voies respiratoires, entraîner des lésions respiratoires et en même temps donner des lésions inflammatoires au niveau du cœur. Ces lésions peuvent être directes, c'est-à-dire que c'est le virus lui-même qui va entraîner l'inflammation du cœur. Il va entraîner des lésions, des blessures au niveau du cœur. Et ces blessures, ça peut donner aussi, ça peut s'aggraver et ça peut donner de l'insuffisance cardiaque. Ça peut parfois donner des chocs cardiogéniques. On peut avoir aussi, comme atteinte cardiaque, des troubles du rythme du cœur. On peut avoir, comme il y a une formation de caillots exagérés, de caillots de sang exagérés dans le système veineux artériel, on peut avoir des caillots qui se forment au niveau des artères du cœur. Et donc, tout cela va expliquer un peu cette sévérité, surtout dans les formes sévères, dans les formes du Covid sévère.
Très bien. Alors, quelles peuvent en être les causes, professeur Bennis ?
Alors, les causes de l'atteinte au niveau du cœur dans le cadre du Covid sont expliquées d'abord par une susceptibilité à un risque, un sur-risque. C'est-à-dire, quand vous êtes hypertendu, diabétique, vous avez des maladies coronaires, vous êtes plus susceptible à avoir un sur-risque d'inflammation du cœur. Deuxième chose, c'est par rapport au traitement qu'on prend, certains traitements qu'on donne pour l'hypertension qui pourraient favoriser ces lésions myocardiques, en particulier certains antihypertenseurs. Et puis aussi les traitements qui peuvent être pris au cours du traitement par le Covid qui peuvent aussi expliquer ça, comme en particulier la chloroquine, l'azithromycine, certains antiviraux qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc vous voyez qu'il y a une multitude de causes qui peuvent expliquer malheureusement cette inflammation du cœur et ce risque d'insuffisance cardiaque. Il y a autre chose qui est extrêmement importante, c'est que le virus du Covid a une atteinte bidirectionnelle, il a une atteinte au niveau du cœur et une atteinte aussi au niveau de l'endothélium, au niveau des vaisseaux, parce qu'il va favoriser la formation de caillots, il va y avoir un déséquilibre entre les systèmes qui favorisent les caillots et les systèmes qui luttent contre la formation des caillots. Et ce déséquilibre va dans le sens d'augmentation de la formation des caillots. Donc, on va avoir des risques de thrombose veineuse, embolie pulmonaire et aussi d'infarctus cardiaque. Et en même temps, des atteintes respiratoires qui peuvent être sévères et qui peuvent malheureusement, lors de ce qu'on appelle l'aura cytokinique, emporter les patients. Nous avons des études qui nous ont été rapportées de Chine, d'Italie, un peu partout, de publications qui montrent que on trouve le virus à l'intérieur du cœur, on trouve des microthromboses à l'intérieur du cœur, on trouve des atteintes de l'interstitium du myocarde. Donc, il y a manifestement des signes directs de microscopie électronique qui montrent que, soit par biopsie, soit par autopsie, qu'il y a un lien direct entre le virus et l'atteinte cardiaque. Et on a aussi d'autres preuves, par exemple, lorsqu'on va faire des IRM, des résonances magnétiques nucléaires du cœur, on va voir qu'il va y avoir des lésions, en particulier dans le myocarde, dans le sous-endocarde, et ce sont des lésions qui sont en rapport avec l'inflammation causée par le virus.
Très bien. Alors, quels peuvent en être les premiers signes, ces premiers symptômes qui devraient nous alerter ?
Alors, les premiers symptômes qui peuvent nous alerter, ce sont des douleurs à la poitrine. C'est le premier symptôme. Deuxièmement, ça entre dans le cadre de l'atteinte virale. On peut avoir des palpitations, une augmentation du rythme cardiaque, un essoufflement important. Et puis, quand on fait des explorations, on voit que le cœur commence à être gros, que quand on fait une échographie cardiaque, on trouve que le cœur ne se contracte pas très bien, que la fraction d'éjection peut baisser, et on peut trouver de l'inflammation au pourtour du cœur. C'est ce qu'on appelle une péricardite. Il y a du liquide autour du cœur, et on peut surtout avoir des éléments biologiques, en particulier l'élévation des marqueurs du cœur, les troponines, qui vont s'élever avec la gravité. Plus les troponines vont s'élever, plus le risque est important. Et alors, donc, parfois, ça peut être grave, ça peut aboutir à de l'insuffisance cardiaque ou un choc cardiogénique.
Très bien. Alors, comment se fait le diagnostic, professeur Benis?
Alors, le diagnostic se fait par les examens biologiques, les troponines, hein, qui sont plus un indice de gravité, et puis des examens qu'on fait comme l'échographie cardiaque qui va étudier la fonction et l'anatomie du cœur. Et puis, on peut faire aussi de la résonance magnétique nucléaire du cœur dans certains centres spécialisés qui va nous montrer l'inflammation au niveau du muscle cardiaque et du pourtour du cœur. Et donc, grâce à ces éléments, qu'on va porter le diagnostic et on va traiter de façon adéquate les patients.
Très bien. Alors, avant de parler de traitement, justement, professeur Benis, est-ce qu'il y aurait des personnes à risque?
Bien sûr, les personnes à risque d'avoir une inflammation du myocarde, ce sont les patients qui sont à risque du Covid, forme grave du Covid, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà une atteinte maladie cardiaque auparavant, qui ont déjà fait un infarctus, un accident vasculaire cérébral, qui sont diabétiques, qui sont surpoids en particulier, qui ont eu un passé lourd cardiaque, les hypertendus, voilà un peu la population à risque d'avoir cette inflammation du cœur.
Très bien. Alors, en termes de traitement, comment ça se passe, professeur Benis?
Alors, le traitement de l'inflammation du cœur fait partie un peu du traitement de la COVID. Donc, c'est-à-dire qu'on va on va oxygéner les malades lorsqu'ils sont en hypoxie, on va donner des anticoagulants lorsque les patients hospitalisés, on va donner des anticoagulants, surtout lorsqu'on a des preuves qu'il y a une thrombose, où on va mettre les malades sous anticoagulants lorsqu'il y a des risques importants de thrombose. Et au niveau spécifiquement du cœur, on donne des anti-inflammatoires, on donne soit des anti-inflammatoires comme l'aspirine à forte dose ou des corticoïdes à forte dose, et ça nous permet un peu d'avoir une régression des lésions. Et en général, l'atteinte myocardique, lorsque l'atteinte respiratoire n'est pas sévère, elle peut évoluer de façon favorable. Mais tout dépend un peu de la sévérité de la COVID, et en particulier d'atteinte respiratoire. Plus l'atteinte respiratoire et plus cet orage cytokinique malheureusement est sévère, plus le risque de mortalité est important.
Est-ce que les enfants sont touchés, professeur Benis?
Alors ça, c'est une question importante parce que ça nous ramène aux vaccinations.
Oui.
Alors la vaccination, parce qu'il y a beaucoup de dires qui disent « Ah oui, attention, le vaccin, ça peut augmenter le risque de myocardite ». Alors, on a aujourd'hui des statistiques, et ces statistiques, je les tire de 3 grandes études, et ce sont des statistiques publiées et scientifiques. Alors, au niveau, en France, il y a l'étude EPIPHAR qui est sortie, qui, avec les vaccins Moderna et Pfizer, et qui montre clairement que pour chaque 1 million, avec la deuxième dose de Pfizer qui a été vaccinée, il y a 26 cas. Donc, ce qui fait une incidence à peu près de 2 pour 100 000 personnes. Pour le Moderna, il y a un risque un peu plus élevé, 131 pour 1 million. Donc, et pour l'inflammation du cœur, 4,2 pour Pfizer et 17,8 pour Moderna. Et cette inflammation myocardique, en général, d'évolution favorable, ça touche les enfants entre 12 et 15 ans. Et il y a eu à peu près 900 cas d'inflammation myocardique et 900 cas de péricardite sur les millions de personnes vaccinées en France. Alors, aux États-Unis, j'ai les statistiques. Alors, pour chaque million de seconde dose d'un vaccin ARN, c'est-à-dire soit Moderna, soit Pfizer, alors on a pour entre 12 à 17 ans, 8 à 10 cas pour les filles et de 50 à 69 cas d'inflammation pour 1 million. Entre 12 et 17 ans. Alors, lorsqu'on passe entre 18 et 24 ans, c'est de 4 à 5 pour les filles et de 45 à 56 pour les garçons. Et lorsqu'on passe de 24 à 29 ans, 2 cas pour 1 million pour les filles et pour les garçons, c'est de 15 à 18 cas d'inflammation de myocardite lorsque la personne est vaccinée et voit le risque. Par contre, quel est le bénéfice faut voir aussi le bénéfice. Pour chaque million de vaccinés, alors vous avez pour les filles 8500 cas de Covid et 183 hospitalisations, 38 admissions et un décès. Un décès sur 1 million quand on est âgé entre 12 et 17 ans, lorsqu'on est vacciné. Et pour les garçons, on a entre 12 et 17 ans 8500 Covid, 183 hospitalisations, 38 admissions et un décès. C'est-à-dire que pour 1 million quand vous êtes vacciné, pour 1 million de vaccinés, le risque pour qu'un garçon ou une fille meure est de 1 pour 1 million. Et il faudrait absolument faire le rapport risque-bénéfice. Donc vous avez vu que les cas d'inflammation myocardique sont rares, sont d'évolution favorable, et vous avez vu que la vaccination protège. C'est exactement le chemin qu'on voudrait faire passer à nos auditeurs et nos auditrices. Aujourd'hui, le vaccin, et en particulier le vaccin ARN, est aujourd'hui doté d'un grand pouvoir de protection contre les complications graves dont on a parlé, en particulier les atteintes graves, respiratoires, cardiaques, qui peuvent emporter les personnes. Et quand on met en balance les deux, il n'y a pas photo. Les avantages du vaccin dépassent de façon énorme les risques qui restent minimes. Et même s'il y a des risques, vous avez vu, on a 8 à 10 cas pour 1 million, l'évolution dans la grande majorité des cas est favorable. Donc c'est pour rassurer nos citoyens qui nous écoutent, il faudrait se faire vacciner, il faudrait absolument ne pas écouter tout ce qui se dit en termes de personnes qui sont vaccino-sceptiques, parce que les vaccino-sceptiques, ça n'a aucun fondement scientifique. Lorsqu'on voit aux États-Unis 200 millions de personnes qui sont vaccinées, lorsqu'on voit le nombre d'Europe, et quand on voit, et ça clairement démontré dans toutes les publications scientifiques, le fait d'être vacciné protège 20 fois plus que les non-vaccinés. Et les non-vaccinés ont 20 fois plus de risques de mortalité et de complications graves. Et on a vu, chacun a vu autour de nous, les personnes malheureusement qui sont décédées, que ce soit dans le corps médical, que ce soit ailleurs, qui sont décédées du Covid. Donc c'est aussi un appel aux gens pour se faire vacciner en masse. C'est le seul moyen aujourd'hui médical, scientifique, pour sortir de cette crise de pandémie mondiale.
Oui, et peut-on prévenir la maladie, j'allais dire j'imagine donc votre réponse.
Absolument. Alors le seul moyen, c'est de se faire vacciner. Il faudrait vacciner et appeler les gens à se faire vacciner en masse, parce que plus notre population va atteindre l'immunité collective, plus on va être vacciné en masse, plus cette pandémie va partir. Et on pourra, et ce qui est extrêmement important, et toutes les études, que ce soit le Lancet, que ce soit les New England Journal of Medicine, que ce soit dans tous les grands pays, les grandes publications, montrent clairement qu'une personne vaccinée ne fait pas de forme grave. Une personne vaccinée ne va pas à l'hôpital. Une personne vaccinée ne va pas nécessiter d'oxygène. Une personne vaccinée ne va pas mourir du Covid. Et pour nous, le meilleur médicament contre la Covid, c'est la vaccination. C'est le seul chemin scientifique aujourd'hui prouvé pour prévenir le Covid. Aujourd'hui, on a des thérapeutiques qui vont arriver, des thérapeutiques de Merck, de Pfizer, on entend parler, on n'en a pas encore, et qui pourraient prévenir les formes graves. Mais jusque-là, nous avons obligatoirement l'obligation pour nous, pour protéger ceux qu'on aime, pour protéger nous-mêmes, contre le vaccin. Et donc, dans ce siège-là, je suis médecin, je crois à la science, j'ai reçu le vaccin AstraZeneca 1 et 2, et j'ai reçu le booster Pfizer, et donc toute ma famille a été vaccinée, et je crois à la vaccination parce que c'est le meilleur moyen de nous protéger.
Merci beaucoup, professeur Ahmed Bnis. Je rappelle que vous êtes professeur en cardiologie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médien. Et c'est un entretien réécoutable sur notre site médien.com.